Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dans un temps qui n'est pas si lointain, on les aurait appelés des militants, voire des combattants. Ils défendent une cause, luttent pour des droits, mais ce qu'ils ont de particulier et qui nous intéresse, c'est qu'ils obtiennent des résultats. Leur combat aboutit, ils y arrivent, ils parviennent à modifier quelque chose de cette réalité qu'ils trouvent injuste, scandaleuse ou dangereuse. Dans les années 90, il y a eu la période Erin Brockovich et sa lutte victorieuse contre la Pacific Gas et Electric Company, popularisée par le film de Soderbergh. À ce moment-là, on les a appelés des Erin Brockovich. Au début du XXe siècle, il y a eu par exemple l'histoire de Nicole Marie Meyer, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, qui a découvert une affaire de faux et usage de faux, s'est fait renvoyer, mais a fini, à force d'obstination, par faire voter une loi qui édicte que tout agent public ou privé est protégé s'il signale un crime ou un délit. Aujourd'hui, on les appelle des lanceurs d'alerte. Mais le terme associe d'équivoque qu'une fois l'alerte lancée, le coup de sifflet donné, parfois le soufflet retombe, la justice ne se fait pas, ou bien ils laissent l'affaire à d'autres, confient leurs documents à des journalistes, se contentent de tirer la sonnette d'alarme, et puis leur révérence. Ceux qui nous intéressent dans cette série vont plus loin. Ils arrivent bel et bien à changer la face du monde, même si ce monde est un petit sentier dans le Finistère, des vaches allaitantes dans le Limousin, l'exploitation de l'eau à Grenoble. La prochaine fois, dans cette série, vous entendrez même l'histoire d'un homme qui a réussi à empêcher la construction d'un immeuble d'une dizaine d'étages pour préserver une espèce rare d'orchidée. Ils ont changé la face du monde, deuxième épisode, un combat de notre whistleblower à nous, Inès Leroux, qui elle-même, à sa façon, change au moins notre façon de voir le monde. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Pour continuer ma série d'histoires sur des citoyens qui ont mené des combats victorieux pour le bien commun, je me rends dans le Bordelais, à Listrac, une petite commune du Médoc, entourée de vignes.
Alors, je suis Marie-Lise Bibaïran, je suis militante anti-pesticides sur le Médoc et je suis en même temps employée dans les vignes sur la commune de Listrac. Je suis née dans une famille liée viscéralement au milieu de la vigne, parce que mon papa a été maître de chez dans un grand château de la commune pendant 40 ans. J'ai deux frères, dont un qui est décédé, mais qui étaient tous les deux dans la vigne. Et moi-même, après des études de droit sur Bordeaux, je suis revenue travailler à la vigne. On peut pas y échapper, presque, je dirais. Donc, c'était mon frère aîné. Il avait 46 ans en 2008, quand à l'automne, il est tombé malade. Il a subi des examens pour identifier ce qu'il avait. Et donc, le verdict est tombé en décembre. Il avait un cancer des voies biliaires intrahépatiques, un cancer très rare. La première question lui-même qu'il a posée au médecin, c'était de savoir si c'était lié au produit de la vigne. Et ce médecin, qui était quand même cancérologue, lui a dit « on vous le dira dans 20 ans ». Sachant donc très bien qu'il ne serait plus là pour le savoir. Ça a été un choc d'apprendre que c'était fort probablement lié à son travail, étant donné que c'était quelqu'un qui menait une vie très saine, qui fumait pas, qui buvait pas, qui... penser vivre à la campagne et dans un environnement dit sain. Mais tous les ans, depuis qu'il faisait les traitements, il avait des saignements de nez quand même assez importants. Il n'en avait pas le reste de l'année. Et une fois, il a été arrêté assez longtemps en été, alors que ça lui ressemblait pas du tout, pour une grosse angine, mais une angine même assez inquiétante, parce qu'il il ne parlait plus, il a été assez malade. Et c'était donc là encore une fois en période de traitement. Donc mon frère décède en octobre 2009, donc passé les premiers mois, je me suis mise à ressentir le besoin de creuser la question du lien avec les pesticides. J'ai lu tout ce qu'on pouvait trouver à ce moment-là et j'avais fait du droit, donc je savais que quelque part j'avais entendu parler de la possibilité d'engager une procédure en reconnaissance post-mortem de maladies professionnelles, même si j'avais fait très peu de droit de travail. Et quand j'ai eu la confirmation de la recevabilité juridique de la procédure, elle s'est imposée. C'était juste évident. J'ai vite acquis la certitude, de par mes recherches, que une victime qui n'est pas reconnue officiellement, donc je veux dire, je parle des victimes professionnelles, victime de leur exposition sur leur lieu de travail, n'existe pas. Et ma motivation première pour engager cette procédure, c'était que si jamais un jour il devait y avoir une liste dressée des victimes professionnelles, des travailleurs des vignes morts à cause des pesticides, serait intolérable, insupportable que le nom de mon frère n'y figure pas. La procédure a été rendue publique en septembre 2011 par un article dans le journal Sud-Ouest. Donc ça crée un gros choc sur le Médoc. C'était la première fois que dans la presse, on parlait de la possibilité du lien entre pesticides et cancer pour un salarié agricole. Qui plus est un salarié, parce que le Médoc, c'est encore beaucoup une terre féodale. Et c'est rare encore aujourd'hui d'avoir des ouvriers agricoles qui prennent la parole, que ce soit sur le sujet des pesticides ou sur le sujet de leurs conditions de travail en général, c'est très difficile. Donc je savais que je mettais mon emploi en danger, hein, dans la balance, hein. Mais par contre, ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est les attaques dirigées contre mon conjoint, contre la famille. Alors, mon conjoint a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail. Et mes parents ont reçu un courrier de la part des employeurs de mon frère, sa veuve également. Ils ont dit aussi donc à sa veuve que cette procédure allait provoquer une exhumation du corps de mon frère avec une autopsie pour faire pression sur elle et sur les enfants. Et bon, moi, on m'a fait dire de faire attention parce qu'un coup de fusil était vite parti. Bon, c'était inévitable. Bordeaux, c'est une image prestigieuse. Les vins de Bordeaux, mondialement connus, reconnus, réputés. Le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux n'aide pas à la prise de conscience parmi les institutions viticoles de la problématique des pesticides. Ce que je sais, c'est que cette procédure, au début, c'était une affaire entre moi et ma conscience. C'est une affaire intrafamiliale. C'est devenu beaucoup plus que ça. C'est aujourd'hui une question de principe. Quand il y a une audience, il n'est pas question que de mon frère, il est question de l'ensemble des travailleurs des vignes. Il est question des travailleurs qui sont décédés, qui n'ont pas eu la possibilité de faire ce lien. Il y est question des salariés qui sont aujourd'hui malades. Et il y est question de ceux qui ne sont pas encore malades, mais qui sont toujours dans les vignes. Donc à Villeneuve-sur-Blaye, en mai 2014, des enfants qui étaient en train de jouer dans la cour de récréation ont été intoxiqués par des traitements qui étaient effectués au même moment. Donc les traitements étaient effectués alors que les enfants étaient à l'extérieur. Ils étaient dans la cour de récré, il y avait du vent et l'institutrice a été hospitalisée. Ça a été quand même un électrochoc pour la population. Et les institutions viticoles ont tout fait pour étouffer l'affaire. Et ça posait donc de manière plus large la question de l'exposition des enfants quand ils sont dans des écoles enclavées au milieu des vignes. Et il se trouve que sur l'Istrac, on a une école maternelle qui a été construite, qui se trouve au milieu des vignes. Et dans la même zone, il y a le stade. Il y a la salle socioculturelle où peut avoir lieu des activités extrascolaires, des spectacles de fin d'année, et donc encore en période estivale et donc de traitement. Et donc j'ai sollicité monsieur Pascal Boss. Donc monsieur Boss, c'est propriétaire du château Lyonnais. Donc je l'ai sollicité à lui parce que il se trouve que les parcelles qui sont situées à côté de la nouvelle école maternelle lui appartiennent. Donc il a tout de suite accepté de signer cette charte. Donc la charte prévoit qu'il s'engage à n'utiliser que des produits homologués pour la viticulture bio et en dehors des heures de présence des enfants. Parce que certes, on défend la viticulture biologique, c'est pas des pesticides issus de la chimie de synthèse, mais on n'a jamais dit non plus que c'est parce que c'était du bio, on pouvait aller se mettre sur le pulvérisateur. Hein. Et on l'a resigné cette année, on la resignera tous les ans, ça permet de réactualiser son engagement. C'est... voilà.
Et ce n'est pas tout. Marylis me raconte aussi qu'avec ses deux voisines, elles ont proposé aux habitants de l'Istrac d'envoyer un courrier à tous les viticulteurs de la commune, leur demandant de les prévenir par SMS ou par mail 24 heures avant chaque traitement des vignes.
L'information est diffusée sur ma page Facebook, sur mon blog. Chaque viticulteur qui l'accepte adresse ou un mail ou un SMS à ses riverains. Il y a quelques propriétés assez importantes qui nous ont rejoints cette année. On espère qu'il y en aura plus l'année prochaine. Ce qui est vraiment un point positif, c'est que d'une manière générale, alors que cette action n'a été menée que sur l'Istrac, elle est en train de rentrer dans les mœurs viticoles sur tout le Médoc. Voilà, il y a sur l'ensemble des communes viticoles sur le Médoc une dizaine de viticulteurs qui ont accepté d'informer sur plus d'une vingtaine de sollicités. Alors effectivement, ça peut paraître dérisoire, hein, autant de travail, autant de concertation pour juste une information qui ne va pas vous empêcher d'être exposé, c'est vrai. Mais pour des gens qui ont une maison avec un terrain, des jeux d'enfants, une piscine peut-être à côté des vignes, ça peut leur permettre d'abord de fermer la maison, de pas mettre les enfants à jouer dans le jardin ce jour-là, ou alors pour ceux qui sont absents la journée, ils ont SMS le matin ou un mail pour dire attention, on va traiter, ben ils savent que le soir quand ils rentrent, ils vont pas laisser les enfants jouer dehors, et ils vont pas mettre le matin avant de partir le linge à sécher dehors, ils vont pas aller se baigner dans la piscine ce jour-là, voilà, alors ça va, ils vont y aller le lendemain, il y aura des résidus de pesticides, certes, c'est pas la solution idéale, mais au-delà de l'information, il est aussi question de dialogue, de rencontre, d'échange avec le monde viticole et la prise de conscience fait son chemin.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors, ça a duré plus de 20 ans pour obtenir l'arrêt du surgénérateur Super Phoenix qui est installé en Isère, qui était un réacteur nucléaire expérimental avec une charge très importante d'assemblage de plutonium refroidi au sodium liquide. Et donc, le réacteur pouvait être le siège, en cas de défaillance du refroidissement des assemblages nucléaires, d'une implosion nucléaire à l'intérieur du type de ce qui s'est produit à Tchernobyl, c'est-à-dire qu'il était impossible de l'arrêter.
Raymond m'explique que pour lui, tout commence en 1976, lorsqu'il entend parler par des agriculteurs riverains de la construction sans permis de construire de Super Phoenix à Creil-Malville.
Creil-Malville, qui est au bord du Rhône et qui est un petit village avec une centaine d'habitants, qui avait été soumis à une intoxication médiatique de communication d'EDF, comme quoi ça allait créer de l'emploi, etc., etc., sur le secteur. Donc, au niveau des associations, nous avons déposé des recours en annulation des travaux d'aménagement qui étaient en train de se faire, et nous avons perdu ces recours, y compris en Conseil d'État. C'était une décision d'État, c'était même une décision stratégique internationale, puisque les réacteurs à neutrons rapides sont l'exemple type d'une filière au plutonium qui permet de produire du plutonium de qualité militaire. Donc l'installation Superphénix avait comme visée d'être à la fois une source d'énergie, un prototype qu'on visait à commercialiser. À l'époque, il était prévu d'en commercialiser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines au niveau mondial, pour pouvoir le disséminer au niveau mondial. En 1977, a été engagée une grande manifestation contre les travaux en train de se faire. Alors, cette manifestation était importante, et pour organiser cette manifestation, il y a eu une très grande opération policière pour faire en sorte que cette manifestation se termine par des drames. Le préfet de l'Isère a été chargé par l'État d'organiser une défense militaire avec l'armée. Et donc les gendarmes, l'armée, les services secrets ont organisé d'une certaine manière une trajectoire de la manifestation qui était un véritable cul-de-sac. Il pleuvait, c'est un territoire plein de marais, il y avait des chemins très étroits sur lesquels plusieurs dizaines de milliers de manifestants, une des plus grosses manifestations intervenues en France à cette époque, et la longue file de manifestants a accédé à une butte qui retombait de l'autre côté, et en bas de cette butte, la gendarmerie avait organisé en quelque sorte un accueil avec des armes de guerre. Évidemment, les premiers manifestants ont pu accéder au haut de cette butte et ont été obligés de se disséminer immédiatement dans les champs environnants parce qu'il y avait les tirs de grenades armés. Et très rapidement, il y a eu trois blessés très graves, dont l'un a été tué d'un tir de grenade offensive. Vital Michalon, qui était un manifestant pacifiste, vraiment sans aucune arme sur lui. Manfred Schulz, qui était un manifestant allemand antinucléaire, qui était absolument pas armé, lui a perdu une main dans les tirs de grenade. Jean-Michel Grandjean a perdu une jambe, toujours avec une grenade offensive. C'était un militant tout à fait pacifiste aussi. Donc, c'était vraiment une image de guerre, avec sous la pluie les fumées des grenades lacrymogènes de partout, et des gens qui de fait ne pouvaient que refluer, puisque c'était un piège. Et donc les manifestants se sont éparpillés, se sont perdus dans des territoires où il y avait des marais, dans les champs de maïs, on avait les charges de gendarmerie, de CRS et autres qui continuaient, y compris sur, alors que les manifestants ne faisaient que refluer. Donc, on a eu la guerre en France le 31 juillet 1977. L'État a décidé de tuer pour tuer un mouvement d'opposition à Superphénix. Les collègues m'ont mandaté pour être représentant d'association au sein de la commission locale d'information qui s'est mise en place auprès de la centrale, une fois qu'elle a été construite et qu'elle a démarré. Quand je suis arrivé dans cette commission locale d'information, c'était dans les années 87, il se trouve que très rapidement, il y a eu une avarie très grave, qui aurait pu être une catastrophe nucléaire européenne, sur l'installation Superphénix. Mais cette avarie a été présentée comme un incident. Il y avait d'un côté, dans l'installation, la cuve du réacteur, l'équivalent en gros de 6 tonnes de plutonium des centaines de tonnes de sodium liquide qui refroidissait les assemblages. Et puis à côté, un barillet de stockage plus petit qui permettait de charger le réacteur ou de décharger les assemblages du réacteur, qui, comme un barillet d'un revolver, permettait de charger les cartouches dans le cœur du réacteur. Le 8 mars 1987, 4 ans après le démarrage de l'installation, il y a une fuite de sodium entre les deux cuves du barillet. C'est-à-dire que la première cuve fuit. Si le sodium baisse dans le barillet de stockage, ça veut dire que les assemblages qui y sont ne sont plus refroidis, et donc il peut y avoir une explosion nucléaire. Et l'exploitant met un certain temps à rendre publique cette information. Et donc, j'ai demandé à avoir communication du Telex, qui était obligatoirement envoyé par l'exploitant à ce qui, à l'époque, était le ministère de l'Industrie.
Après maintes relances, Raymond Avrillier ne reçoit pas de réponse à sa demande. Mais, au sein de la commission locale d'information, il apprend que le ministère de l'Industrie a enquêté sur l'incident et détecté 20 tonnes de sodium en fuite. Quelle n'est donc pas sa surprise quand il lit le fameux Telex reçu 6 mois plus tard.
J'ai obtenu copie de ce Telex qui était en fait daté du 4 avril 1987, c'est-à-dire 3 semaines plus tard après l'accident, et qui disait en substance « Il se pourrait que nous ayons une fuite de sodium entre les deux cuves du barillet. » Alors que normalement, il aurait dû, ce Telex, être envoyé immédiatement, dès qu'il y avait la révélation de la fuite, et surtout que quand il est envoyé 3 semaines trop tard, il y a déjà 20 tonnes de sodium entre les deux cuves du barillet, et l'exploitant n'en a pas connaissance parce que ça n'avait pas été prévu dans le rapport de sûreté. Il était impossible qu'il y ait une fuite de sodium. Il se trouve que, obligé d'être à l'arrêt constamment, Superphénix demande une autorisation de redémarrage en 1994.
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 86 et 94?
L'installation était à l'arrêt, n'a pas fonctionné. Et on reste avec une logique lourde, il faut redémarrer. On a mis des dizaines de milliards dans ce projet qui était prévu pour quelques milliards au début et qui a été multiplié par 10 dans son coût, et on n'est toujours pas sorti des avaries. Et donc, en juillet 1994, le gouvernement décide d'autoriser par décret le redémarrage de Superphénix, sans le barillet de stockage. Il est irréparable, et donc ils ont mis en place un dispositif temporaire qui est en gros une installation, un chevalet énorme, qui permet, en cas de problème, de sortir un assemblage de combustible nucléaire. Donc l'installation a un décret de redémarrage. Et donc, avec ce qui nous reste du mouvement, car il y en a qui ont gardé la ténacité pendant toute cette durée, et nous engageons une procédure de demande d'annulation contre le décret de redémarrage de 1994. Et nous demandons un référé avec la nomination d'un expert pour aller constater l'état de l'installation. On est convoqué pour ce constat. On était évidemment avec tout le scaphandre, la blouse blanche, le bonnet, les bottes, on était passé au radiomètre avant, etc. Et nous rentrons avec Corinne Lepage, et l'idée que nous avons en tête, c'est où est le chevalet qui permet de sortir des assemblages. Donc le directeur de la centrale nous balade dans l'ensemble de l'installation. À un moment donné, avec Corinne Lepage, on est à quelques mètres du cœur du réacteur. Donc pour marquer un peu le coup, j'indique, mais là, où est l'installation, le chevalet qui permet l'évacuation des assemblages? Oui, on vous le montrera. Et donc, au bout d'un moment où ils nous ont baladés ici et là, sans qu'on apprenne grand-chose, maintenant, vous nous montrez où est le chevalet. Oui, on va vous montrer ça. Bon, c'est un peu plus loin. À force de répéter la question, il nous amène vers la sortie. Et là, on a fait plusieurs centaines de mètres pour aller dans un hangar. Et donc, le chevalet de transfert était tout démonté, emballé dans des sachets plastiques, posé par terre, la démonstration était faite. Le réacteur nucléaire ne disposait pas de l'élément essentiel de sûreté pour éviter une explosion. L'installation n'était pas en état de redémarrer en sûreté. Et donc, notre recours, en février 1997, a donné lieu à une décision du Conseil d'État annulant le décret de redémarrage de 1994. L'installation n'avait plus aucune autorisation. Donc, Superphénix est toujours, depuis 1997, en cours de démantèlement.
Donc vous avez contribué à éviter une catastrophe nucléaire certaine?
Surtout, nous avons évité l'exportation des bombes nucléaires, donc la prolifération de l'armement nucléaire.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre. Ils ont changé la face du monde. Deuxième épisode, un reportage d'Inès Leroux, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Marie-Lys Bibéran, à Raymond Avrillier, à Daniel Ibanez, à Julien Sicard et à Capucine Pantin. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des pieds sur terre. Sabine Zovigian, c'est notre stagiaire. Des commentaires, des réactions, des combats grands ou petits. Direction les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec beaucoup d'impatience.